Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur soit béni au milieu de nous encore en ce jour. Et je vous transmets aussi les salutations de l'église de Pavilly, située à côté de Rouen, où j'étais donc pour une série de réunions là jusqu'à jeudi. Voilà, le Seigneur a béni, a fait du bien, et les frères et sœurs aussi m'ont chargé de bien vous saluer. Voilà. Alors on va partager la parole de Dieu. On est dans cette perspective donc d'étudier l'action de l'Esprit, particulièrement dans la Nouvelle Alliance. Et on va parler de la sanctification. C'est vrai que la dernière fois, on avait parlé de la régénération. C'est la première action de l'Esprit qui va nous convaincre de péché, qui va amener un pécheur à la repentance. Hein. L'Esprit convaincra de péché. Et puis ensuite, il nous fait naître de nouveau. On a vu tout ça avec l'Évangile de Jean, chapitre 3, Jésus et Nicodème. Ainsi, une fois qu'on est né de nouveau, eh bien, on peut entrer dans le royaume de Dieu, on peut le voir, on peut avoir une nouvelle dimension avec le Seigneur. En fait, tant qu'on n'est pas né de nouveau, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, tant qu'il n'y a pas eu cette première action de l'Esprit pour nous permettre d'accéder à la régénération, eh bien, nous sommes encore perdus, nous sommes encore loin de Dieu. Même si on est devant le Seigneur, même si on n'est pas loin du salut, Nicodème lui-même était devant Jésus et pourtant il n'était pas encore né de nouveau. Il fallait qu'il fasse cette expérience. On a vu qu'on ne pouvait pas la faire soi-même, qu'il fallait vraiment que l'Esprit agisse, mais qu'on devait prier pour cela. On ne pouvait pas la faire par nous-mêmes, par nos efforts, mais pour naître de nouveau, c'est l'action d'en haut, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. Alors nous, on doit prier pour cela. Si ce n'est pas le cas, bien, on vous invite à rechercher vraiment cette expérience. Maintenant, la deuxième grande expérience que nous faisons avec l'Esprit, c'est la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification ? Ce qui est saint dans la parole de Dieu, c'est ce qui est mis à part, ce qui est consacré à Dieu, ce qui lui appartient entièrement. C'est ça, le premier sens d'être saint. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, étaient saints aussi des objets. C'est pas que tout ce qui était mis à part pour Dieu était considéré comme saint, sanctifié. Donc, aussi bien des objets, comme les objets du tabernacle, que des personnes. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, on va voir que c'est essentiellement les personnes qui sont sanctifiées, donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va purifier, qui va séparer du mal, et puis qui va nous rendre conformes à Christ. C'est le grand but de l'action de l'Esprit en nous. Et ce que je voudrais dire en introduction, c'est que de même que la nouvelle naissance, qu'on a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de naître de nouveau, de même on va voir que dans la sanctification, c'est une œuvre de Dieu aussi. Je vous cite un verset en introduction, 1 Thessaloniciens 5:23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc on voit bien que c'est l'œuvre de Dieu qui va nous sanctifier tout entier, tout votre être, esprit, âme, corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors pour nous aider à bien cerner le sujet, on va le voir en trois temps. Parce qu'il y a comme une perspective dans la sanctification. Il y a le passé, le présent et le futur. Et on va voir qu'il y a plusieurs versets qui à la fois parlent du passé, vous avez été sanctifié, qui parlent du présent, nous devons la rechercher, la sanctification, et puis qui parlent de cette sanctification achevée que nous aurons lorsque nous serons dans la gloire. On va voir la première partie, donc, la sanctification passée. Citer deux versets, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 2, où il est dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. » J'ai un petit peu résumé les versets parce que ça n'entrait pas dans la vidéo, mais si vous savez la parole de Dieu, vous avez le verset complet. Mais ce que je voulais souligner dans ce verset, c'est à ceux qui ont été sanctifiés. C'est donc quelque chose de passé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. On parle de notre état avant de connaître le Seigneur, on était dans le péché. Mais vous avez été lavés, et vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'action de l'Esprit de notre Dieu. Encore une fois, l'apôtre Paul dit, ben c'est quelque chose de fait, vous avez été sanctifié. Alors cette sanctification, on va dire passée, la première, elle est acquise du fait de notre position d'enfant de Dieu. Elle ne dépend pas de nous, elle dépend entièrement de la volonté de Dieu, de sa décision. C'est lui qui a décidé de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part pour sa gloire. Elle ne provient pas d'un désir de vivre dans la sainteté, ça on va le voir, ça c'est dans la sanctification présente, mais elle provient d'une décision de Dieu, comme il est dit dans la parole, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc il y a la volonté de Dieu, il y a l'appel de Dieu, il y a le désir de Dieu, il y a cette action qui le fait. Alors quand est-ce que Dieu nous sanctifie? Quand est-ce que cette sanctification a commencé? Alors si on se réfère à ces deux versets, on peut dire qu'ils ont été sanctifiés au moment où ils ont reçu Jésus dans leur vie, au moment où ils ont reçu, où ils ont accepté le Seigneur dans leur cœur. Quand nous avons donné notre cœur au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'on, quand on est croyant, on devient le temple du Saint-Esprit. Alors on va voir que c'est encore différent du baptême dans le Saint-Esprit. Mais à chaque fois que quelqu'un se convertit à Christ, Dieu désire faire sa demeure en lui. Et Dieu fait de cette personne un temple, le temple du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous sommes sanctifiés par Dieu d'une manière miraculeuse, si on peut dire, puisque c'est Dieu qui le fait. Du fait que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, nous sommes saints. C'est une position spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle les chrétiens des saints, vous l'avez remarqué, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Toulouse-Ouest. Amen. Mais il aurait pu écrire ça. Il y a une anecdote qui a été racontée là, il y a quelque temps d'une personne d'origine catholique qui était venue dans une église comme celle-ci, dans une mission je crois, et puis à la fin du culte, elle est allée voir le pasteur, elle a dit « Ah, c'est bien, vous chantez, vous priez le Seigneur, mais où sont les saints ?» Parce qu'elle cherchait les statues. Alors le pasteur s'est retourné à désigner l'auditoire. « Les saints, ils sont là, ils sont au milieu de vous. » Voyez, ce sont les chrétiens, les saints. Et cela pour nous faire comprendre que dans la tradition catholique, et nous sommes baignés dans cette tradition, il faut bien le reconnaître, nous sommes influencés par cela, les saints, ce sont des personnes qui ont été canonisées, c'est-à-dire qui ont une supériorité spirituelle parce que leur vie a été remarquable, parce qu'ils sont en quelque sorte l'élite selon les critères du christianisme. En réalité, ce n'est pas ainsi dans la parole de Dieu. Ça a été une interprétation, une volonté de faire ainsi, et c'est pourquoi, selon la tradition catholique, il y a un certain nombre de saints qui sont définis et qui ont eu une vie remarquable. Et puis, pour devenir saint, il faut rentrer dans certains critères. Mais en tout cas, dans la parole de Dieu, il n'est jamais fait mention de cela. Tous les croyants sont appelés des saints. Voilà. Pour ça, il faut se dégager un peu de cette mentalité qui n'est pas du tout issue de la parole, mais qui vient de la religion, qui a défini des saints supérieurs par leur activité, etc., voire de les prier. Tout cela, nous le contestons. Mais nous maintenons ce que la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul écrit, par exemple, aux anciens, aux diacres et aux saints de telle église. Donc il définit la communauté. Les saints, ce sont bien les croyants, ce ne sont pas des gens particuliers dans le sens qu'ils ont fait, ils ont une vie de sainteté vraiment supérieure aux autres. Ce mot saint vient donc de notre position spirituelle. Cela veut-il dire que les chrétiens n'ont aucun défaut et qu'ils sont parfaits? Eh non, je vais vous dire pourquoi. Parce que on va voir que Dieu attend de nous de progresser dans la sanctification. Ce n'est pas parce que nous sommes saints, saints par vocation, saints par décision de Dieu, que nous n'avons rien à faire pour améliorer notre fichu caractère. Bon, alors ça, on va le voir tout à l'heure. Mais déjà, je peux réaliser que je suis saint, déjà par vocation, par décision de Dieu. Maintenant, je vais être appelé à le manifester dans ma vie de tous les jours. Avant de voir le point suivant, je voulais faire deux lectures parce que c'est important. Hébreux chapitre 9, verset 13. Vous voyez, on est dans un point qu'il faut bien saisir parce que la sanctification passée, elle a été possible parce qu'il y a eu la croix. Ben, c'est toujours dans le passé. La croix, c'est fait. Hébreux chapitre 9, verset 13 et 14. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, le sang de Christ sanctifie. Et puis, l'autre verset que je voulais lire, c'est toujours Hébreux, chapitre 10 et verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. C'est par le sang de l'Alliance qu'il a été sanctifié. Alors, c'est bien la sanctification passée. Elle devient active lors de la nouvelle naissance, lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur par l'action de l'Esprit. Mais en fait, c'est en vertu de ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Son sang a versé, mais ça s'est passé. Son sang, il a coulé. Une fois pour toutes, dit la parole de Dieu, on n'y reviendra pas. Mais il devient effectif, actif dans notre vie, que par l'action miraculeuse du Saint-Esprit qui nous fait vivre cet événement passé, c'est-à-dire qu'à la croix, effectivement, Jésus a porté nos péchés, il a porté nos maladies, nos infirmités, mais cela devient réel pour nous quand nous naissons de nouveau, que nous acceptons le Seigneur dans notre vie et que nous acceptons l'œuvre de la croix. C'est donc en vertu de l'œuvre de Christ à la croix, de son sang qui a coulé, que la sanctification est possible. Voilà, ça rejoint le passé, ensuite on arrive à la nouvelle naissance. Et puis, deuxième partie, donc maintenant on va parler de la sanctification présente. Alors, ça c'est un autre aspect, on va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 1. 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. La sanctification est donc acquise sur le plan spirituel, ça c'est celle qui est passée, mais maintenant, Paul dit, elle doit se manifester dans notre vie quotidienne. Et pour cela, et c'est là la grande pensée de la parole de Dieu, c'est que nous devons devenir ce que nous sommes spirituellement en Christ. Nous devons devenir concrètement, dans notre vie de tous les jours, ce que nous sommes en Christ, ce que Christ a décidé pour nous, c'est-à-dire nous sommes saints, mais nous devons le devenir. Alors ça va prendre du temps, ça va demander des efforts. Premier point, apprendre. Verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris. C'est donc un apprentissage, la sanctification. Alors comment les Thessaloniciens ont appris la sanctification ? Bien, ils l'ont appris des exhortations de l'apôtre Paul, parce qu'il en a parlé, mais ils l'ont appris aussi du témoignage de Paul lui-même, de sa vie de piété, de son impact. Parce qu'on se rend compte que les ministères vont avoir une grande influence à ce niveau-là. Ils ont une responsabilité. La Bible demande que les responsables spirituels soient les modèles du troupeau. Paul dit à un moment donné, « Soyez mes imitateurs. » Regardez-moi, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors ça ne veut pas dire que Paul était parfait, mais que par son modèle, il menait une vie de sanctification, de recherche de la sainteté. Et ça, c'était important de le manifester. Apprendre, ça signifie aussi qu'on ne sait pas tout. Hein, vous avez appris, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on sait forcément dès qu'on est de nouveau, il va falloir l'apprendre. Et on doit accepter d'être enseigné et réformé par le Seigneur. Alors c'est pour ça que le responsable spirituel, le pasteur ou les anciens, ils doivent veiller sur la bonne marche du troupeau dans les voies de Dieu. Moi, ça m'est arrivé de reprendre des personnes à cause de situations qui n'étaient pas réglées dans leur vie. Ben, pourquoi est-ce que je le fais ? c'est pas parce que j'aime pas ces personnes, c'est pas parce que je vais les embêter, mais c'est parce que Dieu nous le demande. Et il nous demandera des comptes, et si on ne respecte pas la parole de Dieu, ben on va vivre n'importe comment. Et puis demain l'Église, ça deviendra n'importe quoi. Donc il faut que l'on veille à ces choses-là, et que nous marchions dans la sanctification, que nous l'apprenions. Deuxième point, nous devons progresser. C'est la suite du verset 1. C'est là ce que vous faites, et nous vous prions au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc on voit bien que la sanctification, ça va s'apprendre, mais on doit approfondir tout au long de notre vie chrétienne et progresser. Paul s'attend à constater des progrès. Il va les prier, il va les conjurer, les chrétiens de Thessalonique, parce que pour lui c'est important. Alors comment est-ce qu'on peut progresser dans la sanctification ? Alors il y a deux éléments, il y a un verset qui le dit, c'est dans 1 Timothée 4:5, « Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » On a parlé tout à l'heure de la sanctification passée, on a dit que c'était en vertu du sang de Christ qui a coulé. Ça, c'est le passé. Mais pour celle qui est présente, on est maintenant dans la sanctification actuelle, celle que nous devons vivre, eh bien, il y a deux éléments clés qui sont la parole de Dieu, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Ça, c'est pour la présente, la sanctification présente. La parole de Dieu, parce que c'est important de la méditer, de la connaître. Si on ne sait pas ce que la Bible enseigne sur le péché, sur ce que Dieu attend de nous, comment est-ce qu'on va pouvoir le vivre et comment est-ce qu'on va pouvoir le manifester ? On ne pourra pas. Donc il faut connaître la parole. La deuxième chose, c'est la prière, puisque le Saint-Esprit va nous montrer dans notre vie, par la prière, bien, ce qui doit changer, ce qui doit être réformé, ce que nous avons besoin de faire dans notre existence pour nous conformer à la parole de Dieu. Maintenant, on se rend compte qu'à un certain stade, les progrès cessent. Pourquoi ? Parce que si on néglige la parole, si on néglige la prière, évidemment, on cesse de progresser. Et puis parce que certains se sentent arrivés à un stade où ils pensent qu'ils ne peuvent plus progresser. Ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif de Dieu. Ils pensent que maintenant c'est bon, on va continuer comme ça jusqu'au retour de Jésus. Mais ce n'est pas comme ça dans les Écritures. Puisque Paul dit, je vous conjure de continuer à marcher de progrès en progrès. Ça veut dire qu'il y a un défi constant et que la vie chrétienne, on n'est jamais arrivé. Et qu'au bout d'un moment, il y aura une nouvelle étape à franchir. Le deuxième point, donc, c'est progresser, on l'a vu. Le troisième point, c'est s'abstenir de la débauche, au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. On a parlé un peu de ce terme grec, porneia, qui est une conduite laxiste sur le plan sexuel. Bien sûr, à l'époque de Paul, la morale païenne était très basse. Il était très courant de vivre dans l'immoralité, et même la plus haute morale païenne de l'époque, gréco-romaine, était très loin de ce que Dieu demande dans la parole. Ils étaient vraiment dans le péché. Et l'immoralité était courante, même il y avait une indifférence à la morale. Et en fait, ça vient du fait que pour les Grecs et les Romains, le péché, c'est quelque chose qui n'existait pas pour eux. C'était quelque chose qui venait du judaïsme ou du christianisme, mais pour eux, non. D'ailleurs, même les dieux dans ces religions-là, ils vivaient comme des hommes, c'est-à-dire dans le péché. Ils vivaient dans une débauche sexuelle, les dieux, les dieux païens. Et c'est pour ça que le peuple justifiait leur conduite en montrant que dans leur propre religion, il y avait cette débauche. Alors, si les dieux le font, pourquoi pas nous ? Et c'était devenu quelque chose d'admis et de naturel. Ceci permettait de justifier les excès de liberté. Les libertés permissives. Alors, en lisant la parole de Dieu, quand on se convertit, peut-être on est venu d'un monde très loin de Dieu, dans le péché, mais la parole de Dieu dit bien que la débauche, c'est-à-dire les relations sexuelles en dehors du mariage, tout ce qui est déviation sexuelle, tout cela, c'est un péché. Et la Bible est claire là-dessus. Et les chrétiens se sont appliqués donc à vivre selon les enseignements de la parole de Dieu. Alors, même si tout le reste du monde nous dit « Oui, mais tout le monde le fait, c'est normal aujourd'hui », de se fréquenter, d'avoir des relations sexuelles avant le mariage et tout. C'est la pensée du monde, peut-être, mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et nous nous conformons à ce que dit l'Écriture et nous restons convaincus que c'est la vérité et que c'est le meilleur pour nous. Et on le voit très bien dans la pratique, que cette vie de, entre guillemets, liberté sur le plan sexuel a des conséquences tragiques par ailleurs. Donc on doit véritablement prendre la parole de Dieu pour modèle. Alors, j'ai remarqué que je disais cela pour l'époque de Paul. Mais on se rend compte que dans notre époque, il y a la même déviation, finalement. Que chacun veut vivre aujourd'hui sans rendre compte à Dieu et de vivre dans la liberté, on pourrait dire dans la débauche, dans la liberté sur ce plan-là. À part les chrétiens, à part ceux qui sont influencés par la morale chrétienne, tout le reste sont dans cette dimension-là. On ne veut pas de Dieu. Au nom de l'amour et de la liberté, il est interdit d'interdire. C'est des slogans qui ont été proclamés. Jean-Paul Sartre disait « Il n'y a au ciel ni bien ni mal, ni personne pour me donner des ordres. » Donc c'est la volonté de vivre sa liberté, sans rendre compte à Dieu. Alors, les chrétiens, bien sûr, sont fidèles à la parole, et nous ne devons pas nous conformer au style de monde des païens, mais au contraire, rechercher à vivre selon l'Évangile. On a choisi de suivre le Seigneur, donc on doit véritablement appliquer ses principes. Quatrième élément qu'on voit dans ce passage, dans la sanctification, ne pas user de fraude dans les affaires. C'est important parce qu'on se rend compte aussi aujourd'hui que dans le monde des affaires, il y a toutes sortes de choses mauvaises. Il faut rester droit, il faut aimer la parole de Dieu, aimer la vérité. Et dans certains métiers, on se rend compte que le mensonge est assez courant, assez banal. Et plusieurs chrétiens m'en ont témoigné que c'était des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas peur de dire la vérité et nous ne devons pas faire de compromis avec le mensonge. Alors la fraude, la parole de Dieu est claire. Pas de fraude dans les affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'honnêteté. Quelques exemples de fraude bien courants. Le travail non déclaré, c'est de la fraude, c'est de la dissimulation. Ne pas déclarer ses revenus de manière complète. Donner, par exemple, faire une vente sans déclarer toutes les choses, c'est-à-dire en gardant secret des choses qui feraient baisser le prix. Ou le téléchargement illégal sur Internet, ou la copie de CD chrétien. Je parlais dimanche avec le pasteur Samuel Foucard, et c'est un véritable problème ces choses-là, parce que je vais vous dire pourquoi. En fait, les chrétiens, les artistes chrétiens qui produisent des CD, qui chantent et tout, ils investissent dans un certain matériel et la vente des CD permet de récupérer et de les aider à vivre. Parce que bien souvent, ils ont un travail à côté en plus de cela. Et le fait de les copier, parce que le piratage est devenu commun aujourd'hui, chacun copie des CD pour se les passer les uns aux autres. Eh bien, cela va entraver l'avancée de ces chrétiens qui ne peuvent pas, n'ayant pas les ressources, puisqu'ils vendent peu de CD finalement, beaucoup sont copiés. Eh bien, finalement, ils ne peuvent pas non plus développer leur activité et ça reste restreint. C'est pour ça qu'en France, ça a du mal à décoller au niveau des chanteurs chrétiens, etc. Alors il faut veiller à cela pour être honnête, être sérieux. Et si des chrétiens font des CD qui sont de très bonne qualité, ça a un coût, c'est pas gratuit, ils ont payé quelque chose, nous participons. Quand nous achetons, en plus, nous soutenons ces services pour Dieu. C'est pas que payer des chants, c'est aussi soutenir des ministères, des serviteurs qui se sont engagés à chanter pour la gloire de Dieu. Moi, je crois que c'est bien de respecter leur travail. Et on parlait de cela avec le pasteur, il y avait justement une chanteuse qui était là, et il disait que c'était un véritable problème. Alors, nous, chrétiens, soyons sérieux dans ces choses et soutenons véritablement les artistes chrétiens qui se lèvent pour servir le Seigneur. C'est important qu'ils se sentent aussi encouragés. Notre position doit être claire. Alors, ce n'est pas toujours à notre avantage parce que ça va nous coûter plus cher. Ça, c'est vrai. Même si une affaire m'arrange bien, même si c'est moins cher, mais que je sais qu'il y a une fraude là-dedans, que ce n'est pas honnête, je vais préférer me dégager de ça plutôt que de faire un profit, si vous voulez, ou d'avoir un avantage sur le plan financier. Ça, c'est une position, mais chacun doit l'avoir personnellement. C'est important de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, est-ce que cela, c'est vraiment honnête ou pas? Et si Dieu nous montre que ce n'est pas bon, il ne faut pas le faire. Si on n'est pas résolu à vivre selon la parole de Dieu, on va être dans le compromis sans arrêt. Et puis, puisqu'on a accepté là, pourquoi pas ici, pourquoi pas là, etc. Et on ne s'en sort jamais. Non, il faut être vraiment dans la volonté de Dieu, quitte à perdre un peu d'argent, mais en tout cas ne pas étouffer sa conscience, parce que Dieu nous montre, ça ne va pas. Il ne faut pas aller dans cette direction-là, ce n'est pas bon. Cinquième élément, la Bible nous dit de rechercher la sanctification, toujours dans la sanctification présente. Il y a un verset qui dit, Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ». Nous devons donc la rechercher, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Nous devons y aspirer, aspirer à la sainteté, aspirer à une vie avec le Seigneur. Je ne crois pas qu'on peut se satisfaire quand on est dans le compromis, dans la médiocrité. On a ses excuses. Oui, mais c'est ma nature, je suis faible, tout le monde le fait. Non, il faut rechercher la sanctification, analyser notre situation, demander pardon à Dieu et désirer changer, désirer faire ce que Dieu demande. Sinon, on ne peut pas avancer dans la sanctification, on ne peut pas progresser. Il ne s'agit pas de se couper du monde non plus. Certains ont pensé que pour se sanctifier, il fallait éviter le contact avec les autres humains. Ils se sont mis dans des monastères, dans des lieux retirés, pour se garder purs. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ce que Jésus nous dit, c'est qu'on peut se conserver pur dans un monde impur. On a des exemples dans la parole, comme Daniel, dont il est dit qu'il était résolu à ne pas se souiller. Il était dans un contexte où il fallait qu'il mange certains aliments, et selon ses convictions, c'était interdit par la loi. Et bien, il a choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ça que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est de vivre dans ce monde, mais différemment du monde, de ses principes, comme le sel, comme la lumière. Un autre verset dit, vous brillez comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Donc c'est bien, on est bien dans le monde, mais on doit témoigner de la vérité. Alors soit la parole de Dieu s'est trompée, soit je dois vraiment me distinguer de la mentalité de ce monde. Parce que quand il est dit le sel, la lumière, les flambeaux qui brillent, c'est vraiment une différence par rapport au monde qui est perdu. Alors c'est beaucoup plus difficile de résister et de lutter contre le courant de ce monde qui vient, c'est beaucoup plus difficile de faire cela plutôt que de se laisser aller dans la pensée du monde. Alors, frères et sœurs, nous sommes de ceux qui résistent et qui tiennent bon le cap de Dieu. Et puis, sixième élément, comment est-ce que nous allons faire ? 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Ça, c'est un verset qui nous montre que la transformation va se faire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, c'est-à-dire en l'image de Jésus, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. En fait, le Saint-Esprit va venir à notre secours pour nous transformer. Le but du Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous sanctifier, nous entraîner dans ce progrès de la sanctification, c'est de développer le caractère de Christ en nous. Et nous désirons souvent que les autres changent. Ah, si celui-ci pouvait changer, si celle-ci pouvait changer, qu'est-ce que ça serait bien ? En réalité, la parole de Dieu nous montre que c'est nous-mêmes qui devons aspirer à notre propre changement. C'est comme ça que ça se passe dans l'Écriture. Nous devons le rechercher, y soupirer. Et bien sûr, on est limité, on n'arrive pas trop à se changer soi-même, mais l'Esprit nous aide et nous transforme de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Alors, c'est important de bien considérer à la fois notre désir de changement et à la fois l'Esprit qui vient à notre aide. C'est ces deux éléments qui vont faire le miracle. Paul nous invite à regarder vers Jésus. Nous reflétons la gloire du Seigneur parce que nous regardons vers Jésus. Ça veut dire qu'il nous faut avoir une communion avec le Seigneur, un bon moment en relation avec Dieu. Et dans cette intimité, la transformation va s'opérer par l'Esprit. Et ça va se faire dans le temps, de manière progressive. Alors, souvent, on s'attend à ce qu'on soit instantanément changé. Ça, c'est parce qu'on est dans la société où on veut tout de suite. Mais, en tout cas, dans la Bible, c'est écrit, on est transformé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ça se fait dans la durée, ça se fait dans le temps. Et la transformation par l'Esprit se fait aussi souvent par les épreuves que nous traversons, qui vont nous changer, qui vont nous transformer. Alors, vous avez tous ces éléments. Septième point, quel degré, quelle limite pouvons-nous atteindre dans la sanctification ? Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la perfection ? Ça a été une pensée. Par exemple, John Wesley, le fondateur du méthodisme, a déclaré qu'on pouvait atteindre le stade sans péché. Alors il est allé un peu loin. Il a parlé d'une expérience après le salut qu'il appelle l'entière sanctification. Ça a été repris aussi par l'Armée du Salut. Ils disent que la mauvaise disposition de la nature a disparu, que le chrétien n'a plus de mauvaises pensées, que le chrétien n'a plus de mauvaises dispositions. Alors, le seul problème, c'est que la parole de Dieu n'enseigne pas ça. L'Écriture donne une sorte d'équilibre entre deux positions. Premièrement, on ne peut pas continuer à vivre comme par le passé quand on est chrétien. Ça, c'est pour éviter, disons, pour aller contre la tendance des chrétiens laxistes qui se laisseraient aller dans le péché. On ne peut pas continuer à vivre comme par le passé. Il va falloir que ça change. Et l'autre enseignement de l'Écriture, on ne peut pas se vanter d'atteindre la perfection absolue. C'est pour aller contre la tendance du perfectionniste. Ceux qui disent comme Wesley, un stade sans péché. Parce que quand on voit Paul lui-même, il dit qu'il n'a pas atteint la perfection. Philippiens chapitre 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Pourtant, c'était un homme de Dieu remarquable. Il était en communion avec le Seigneur et il avait encore des combats dans sa vie. Il n'a pas atteint la perfection. L'apôtre Jean n'a pas écrit qu'il avait atteint lui-même un stade sans péché. Au contraire, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés. » Et il s'associe là-dedans, puisqu'il dit « nous ». Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Si nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, dit Jean, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Jacques aussi s'est identifié avec ceux qui bronchent de plusieurs manières. Broncher, ça veut dire trébucher, commettre une faute. Et Jacques était serviteur de Dieu. Jacques chapitre 3 verset 2. Alors au travers de tous ces exemples, on se rend compte que aucun n'a dit qu'il était arrivé à une parfaite et totale sainteté, mais que tous étaient en marche. Le seul qui a été parfaitement saint, c'est Jésus, sans péché dans toute sa vie. Mais nous, il est sage de tenir compte de l'enseignement des apôtres qui nous ont précédés, parce qu'on ne peut pas atteindre le perfectionnisme ici-bas. Et nous devons, à la fois on sait qu'on ne peut pas l'atteindre, mais à la fois cela ne doit pas nous décourager, parce que Paul dit nous devons tendre vers le but. Courir vers le but, c'est la course chrétienne. La ligne d'arrivée, c'est la rencontre avec Jésus, c'est le ciel. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous aurons des hauts et des bas dans notre vie. Nous aurons parfois des chutes, mais on peut se relever quand on est tombé. Et il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus et avancer vers le but et progresser, aller de progrès en progrès. Ça s'arrête. La dernière partie, pour terminer, c'est la sanctification future. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et puis, Jude 24. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. On a dit que notre sanctification, elle est actuellement en cours. Nous devons y progresser. Mais elle viendra un moment où elle sera achevée. Et l'achèvement de la sanctification est présenté dans la parole, c'est-à-dire la perfection, on va dire, totale, mais elle est présentée dans le ciel, quand on sera à la rencontre de Christ. Nous recevrons alors un corps spirituel à la place de ce corps de chair. La différence, c'est que le corps spirituel sera entièrement soumis à notre volonté, tandis que le corps actuel, il connaît la faiblesse à cause du péché qui nous environne. Alors, quand nous aurons ce corps spirituel, nous serons semblables à Jésus, parce que Jésus a un corps spirituel. Quand Jésus est apparu ressuscité, il avait un corps glorieux, glorifié. Il pouvait même venir dans une pièce alors que tout était fermé. Donc, ce corps a des particularités tout à fait nouvelles. Et il est parfait. Et ce sera ce corps-là que nous aurons. Alors, tant que nous sommes sur terre, il y a des tensions entre notre faiblesse, notre chair qui est faible et qui connaît certaines difficultés, et puis notre volonté, notre désir de suivre le Seigneur. Il y aura toujours ces tensions. Alors, quand Jésus reviendra, en un instant, nous serons changés, et dans cette sanctification finale, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans le ciel. On ne peut pas aller au ciel avec ce corps-là. Il faut qu'on soit sanctifié, complètement, je veux dire. Parce que dans le ciel, il n'y a pas un milligramme de péché auprès de Dieu. Tout est absolument parfait. Donc la chair ne peut hériter du royaume de Dieu. Nous aurons un corps glorifié, et comme Paul le dit, l'Église sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Donc là, il n'y aura plus du tout de péché. En conclusion, la sanctification, nous avons vu que c'est l'action du Saint-Esprit. Ça commence avec la nouvelle naissance, quand on reçoit Jésus, et ça va se poursuivre tout au long de notre vie chrétienne. On doit aller de progrès en progrès, et ça va s'achever au ciel. C'est pour ça que je vous ai mis dans cette perspective, passé, présent, futur, pour essayer de comprendre la globalité de la pensée de Dieu entre, il y a des versets qui nous disent que c'est fait, d'autres versets qu'on doit la rechercher puis qu'on doit progresser, et puis d'autres versets qu'on est parfait. Donc tout cela mis en perspective, on comprend bien le plan de Dieu, mais nous sommes dans la course. Alors ayons un bon témoignage pour la gloire du roi des rois et acceptons aussi d'être repris par le Seigneur, qu'on avance, qu'on progresse. Et s'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans nos vies, le Seigneur va nous le montrer. À nous d'accepter, de renoncer à telle chose parce qu'on sait que ce n'est pas bon. Et peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui se pose des questions. Ce sujet, bien, on va prier le Seigneur que le Saint-Esprit vous éclaire et vous montre. Parce que j'ai remarqué que bien souvent, quand on ne veut pas abandonner cette chose-là, il y a un blocage spirituel. La personne, elle va plafonner comme ça pendant des années, parce que le Saint-Esprit lui montre une seule chose qu'elle n'a toujours pas faite. Et tant que cette personne résiste, j'ai connu ça plusieurs fois, eh bien en fait, elle ne peut pas avancer dans sa vie spirituelle, elle va rester bloquée là au stade où le Seigneur l'a amenée jusqu'à ce jour-là. Et c'est dommage, elle ne vit pas cette dimension d'avancer. Alors que le Seigneur nous aide. Et j'ai vu comme ça des déblocages se produire, lorsqu'enfin la personne a cédé à l'action de l'Esprit, et qu'elle a dit, bon d'accord Seigneur, je vais le faire. Elle a senti une libération et sa vie spirituelle a pris un élan jusqu'à une prochaine étape parce qu'il y aura toujours de nouvelles étapes. Le Seigneur va nous montrer cela. Merci pour ta parole et je te prie pour notre assemblée Seigneur, afin que puissions réaliser cette action de l'esprit, de la sanctification dans les cœurs, dans les vies. Savons Seigneur que tu veux continuer à nous emmener de progrès en progrès. Je te prie pour celui qui est en lutte, en combat, qui est repris par sa conscience peut-être, par une situation dans laquelle il est et qu'il sent que ce n'est pas clair. Et nous te prions que l'Esprit de Dieu lui révèle toute chose, parce que le Consolateur nous conduit, nous enseigne, nous conduit dans toute la vérité. Et nous ne voulons pas être en communion avec les choses de ce monde ou la pensée de ce monde. Désirons garder une communion avec ta parole, avec le Saint-Esprit, avec notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, et rester, Seigneur, fidèle dans tout ce que tu nous enseignes. Merci de bénir chacun par ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.